Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, la conférence de la FAO, sommet de l'agriculture mondiale, se réunit tous les 2 ans. 2 ans, c'est bref. À certains égards, on pourrait croire que notre dernière session date d'hier à peine. En même temps, l'histoire, dans son accélération incontrôlée, a entassé en 2 ans une telle masse d'événements et de changements que parfois nous aurions presque l'impression de ne plus vivre dans le même siècle. Du dépaysement au désarroi, il n'y a qu'un pas. Nous peinons à comprendre et analyser ce qui se passe. Et nous craignons d'être submergés par un flot d'événements sur lesquels nous ne parvenons plus à assurer notre prise. Est-ce à cause des médias qui concentrent attention sur le spectaculaire? Toujours est-il que nous sommes portés à percevoir d'abord l'aspect tragique de notre époque. Et il faut bien constater, hélas, que notre temps regorge de tragédies. Parmi les plus meurtrières, il faut d'abord citer les guerres, internes ou externes, les unes médiatisées à l'extrême, les autres tout à fait ignorées, qui, pendant ces 2 années, ont semé à pleine main la mort, la destruction, la souffrance et la misère. Guerre du Golfe, hécatombe dans l'ex-Yougoslavie, où éclate l'impuissance de la communauté internationale, Somalie, où l'on voit que l'aide alimentaire elle-même peut connaître de sanglantes dérives, marche caucasienne de l'ancien empire soviétique, Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, que déchirent des affrontements entre communautés ethniques ou religieuses, Haïti, malheureux pays que sa pauvreté ne met pas à l'abri d'autres malheurs. À cette litanie, déjà trop longue, il faut ajouter les conflits mal éteints ou qui se rallument sans cesse au Cambodge, au Angola, au Mozambique, au Libéria, ailleurs encore. La conjoncture économique ne nous présente pas un tableau beaucoup plus réconfortant. Les pays industrialisés subissent une récession obstinée. Les entreprises ferment l'une après l'autre, le chômage s'étend, des familles toujours plus nombreuses tombent au-dessous du seuil de pauvreté, la cohésion sociale se défait, les fléaux de la délinquance et de la drogue se répandent. Dans les pays de l'Est, l'ordre ancien s'en est allé, mais rien n'est encore venu le remplacer. Là où l'on espérait un passage harmonieux à l'économie du marché, le chaos règne. La production industrielle et agricole est complètement désorganisée, le ravitaillement se fait mal, la misère et la faim gagnent du terrain, l'anarchie et la criminalité prolifèrent. Que dire du tiers-monde? Le prix des matières premières qu'il exporte étant moins rémunérateur que jamais, il connaît un appauvrissement général et s'enfonce dans la dette. Les quelques nouveaux dragons qui prospèrent apparaissent comme l'exception qui confirme la règle. Là où l'on a entrepris de grands efforts d'ajustement structurel, ce sont les plus démunis qui en font les frais. Les pauvres se multiplient en Amérique latine. L'Afrique semble en perdition. On avait coutume de dire que les riches ne cessaient de s'enrichir tandis que les pauvres s'appauvrissaient. Ce n'est plus tout à fait exact. Les pauvres continuent à s'appauvrir, mais les riches sont aujourd'hui moins riches. Tout le monde se débat pour survivre dans la frénésie de chacun pour soi et sans se soucier des générations futures. Le travail au noir, l'évasion fiscale et le manque de civisme particulier trouvent un écho dans la concurrence sauvage, les pratiques de dumping et le protectionnisme farouche des nations nanties qui se livrent des guerres commerciales sans merci. Monsieur le Président, au moment où la menace du feu nucléaire paraît enfin conjurée, les anciens pays socialistes bradent des quantités énormes d'armement sans trop se soucier de qui les achète. Et dans leur faim d'énergie, ils continuent d'exploiter des dizaines de centrales atomiques vétustes qui sont de véritables bombes à retardement et de faire tourner des usines tellement terriblement polluante. Le tiers-monde continue de réagir à la pauvreté par une démographie explosive. Plus que jamais, le lit de la misère est fécond. Comme disait Josué de Castro, voici quelques 40 ans. Il en résulte une exploitation dévastatrice des ressources naturelles, mais aussi des flux migratoires d'une ampleur jamais atteinte. À cette émigration souvent clandestine dans le sens sud-nord, vient d'ailleurs s'ajouter un flot de migrants est-ouest. Dans le même temps, on recourt à tous les expédients possibles, trafic des stupéfiants et autres commerces illicites. Monsieur le Président, sommes-nous donc en train d'assister au soubresaut d'une civilisation à l'agonie? Gardons-nous de sombrer dans le pessimisme systématique. À côté et parfois au cœur même de ces tragédies, l'espérance fait briller ça et là de timides rayons. Avec la naissance de l'Érythrée en tant qu'État, l'Éthiopie semble en passe de trouver la paix. C'est aussi sur les voies de la paix, dans l'équité raciale, que l'Afrique du Sud s'est résolument engagée. Et je salue ici les deux grands leaders dont le prix Nobel de la paix vient de récompenser les efforts. En Amérique latine, le dialogue démocratique commence à prendre le pas sur l'insurrection armée. Enfin, l'espoir d'une coexistence pacifique n'apparaît plus comme une chimère dans la région du Proche-Orient, si cruellement éprouvée depuis près d'un demi-siècle. Dans l'ordre économique, les difficultés et même les souffrances que connaissent d'innombrables familles ne doivent pas nous empêcher de voir que beaucoup de pays d'Asie et d'Amérique latine progressent vigoureusement, commencent à faire reculer l'inflation et à se dégager peu à peu du marasme et de l'endettement. Pour ce qui concerne plus directement notre organisation, les remarquables progrès de la production agricole dans nombre de pays ont redressé des situations naguère critiques. Le Bangladesh a accédé à l'autosuffisance en blé et en riz. Le Vietnam est devenu exportateur de riz. Si les chances de paix se matérialisent, on peut espérer que le Cambodge va émerger. On sait que la fureur des hommes réduit des populations entières à la disette et que les envois de vivres représentent une forme première de l'aide humanitaire. Si douloureuses que soient ces situations et si impérieuses que soit l'obligation d'y porter remède, il faut en même temps constater que le monde ne connaît pas en ce moment de famine due à des calamités naturelles et que la situation alimentaire et nutritionnelle apparaît dans l'ensemble un peu moins préoccupante. Parmi les signes positifs enregistrés depuis votre dernière session, les plus importantes et les plus porteurs d'espoir sont, sans aucun doute, les deux grandes réunions internationales qui ont marqué l'année 1992. Je veux parler, bien entendu, du sommet de la Terre, la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui s'est tenue à Rio de Janeiro, et la conférence internationale sur la nutrition organisée conjointement par la FAO et l'Organisation mondiale de la santé et qui s'est déroulée en décembre même dans cette même salle. Monsieur le Président, il n'entre pas dans mon propos de vous exposer en détail ce qui s'est passé dans ces deux assemblées mondiales. Beaucoup d'entre vous ont participé activement à l'une ou à l'autre. La presse et les médias en ont largement rendu compte et vous êtes saisi des rapports et de documents exhaustifs durant cette conférence. Je voudrais simplement évoquer ici les instruments internationaux d'une portée immense qu'elles ont adoptés. Le programme Action 21, fruit de la conférence de Rio, constitue une véritable charte du développement durable et de la sauvegarde du milieu naturel. Je suis heureux de rappeler que l'essentiel des dispositions qu'il propose concerne l'agriculture, les forêts et les pêches et reprend les conclusions formulées par la conférence de Den Bosch sur l'agriculture et l'environnement que nous avions organisée conjointement avec le gouvernement des Pays-Bas. Sur la base de ces conclusions, vous avez d'ailleurs vous-même décidé en 1991 de lancer un programme cadre de coopération internationale pour l'agriculture, le développement rural durable. Comme vous le savez, la Conférence internationale sur la nutrition a adopté une déclaration mondiale et un plan d'action qui définissent les grands objectifs nutritionnels et les moyens à mettre en œuvre pour s'en rapprocher. Je me bornerai à rappeler le caractère fortement intersectoriel et multidisciplinaire. À côté des dispositions visant l'accroissement de la production vivrière, les réseaux de distribution ou la prévention des maladies de carence, la déclaration et le plan d'action invitent tous les pays à revoir leur politique dans des domaines aussi divers que l'emploi et le revenu, le logement, l'instruction publique, les équipements collectifs, etc. Le tout en faisant une grande place à la participation populaire et à la lutte contre la pauvreté. Ainsi donc, les objectifs et les stratégies définis par les deux conférences ne s'articulent pas seulement entre eux, ils se rattachent à de nombreuses prises de position antérieures de la communauté internationale. Je pense en particulier aux grands textes adoptés ici même par la Conférence mondiale sur la réforme agraire et le développement rural, la Conférence mondiale des pêches, au Pacte mondial de sécurité alimentaire, au programme d'action forestier, aux engagements et codes de conduite dont nous avons pris l'initiative touchant les pesticides, les ressources phytogénétiques, etc. À travers la diversité des sujets, tous ces textes convergent vers une finalité unique, favoriser le plein épanouissement de l'homme dans un rapport harmonieux avec la nature. Tel est esquissé à grands traits le cadre dans lequel se situe la 27e session de la conférence de l'AFAO. Sur beaucoup d'éléments, des éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure, l'organisation ne peut exercer aucune action directe, mais il constitue l'environnement de son travail et contribue à en façonner l'orientation. Je ne citerai à cet égard qu'un seul exemple, celui du prix des matières premières, qui nous fournit sans doute le meilleur des paramètres pour mesurer l'état de santé des pays pauvres. Depuis plusieurs décennies, ces prix accusent une tendance à la baisse en valeur réelle. Mais au cours des 10 dernières années, ils ont même diminué en dollars courants. De moitié environ pour le café, de plus d'un tiers pour le cacao, d'un quart environ pour le thé et le coton. Or, il s'agit là, Monsieur le Président, je le répète, de prix courants. La baisse apparaîtrait bien plus forte encore s'il en tenait compte de l'inflation. Il y a plus, dans le même temps, les prix des produits qu'importent la plupart des pays du tiers-monde ont doublé, si bien que le pouvoir d'achat de leur exportation ne représente plus qu'une faible fraction de ce qu'il était il y a 10 ou 15 ans. Quelle économie pourrait survivre à une pareille dégradation des termes de l'échange? L'AFAO ne peut agir par elle-même sur le cours des matières premières et notamment des produits tropicaux qui sont fixés par le seul jeu des forces du marché, c'est-à-dire en fait par la loi du plus fort. Chacun sait que les pays producteurs se trouvent dans une position de faiblesse, que leurs difficultés et leur endettement ne fait qu'aggraver et qu'en réalité, ils n'ont pas la parole. Il n'en reste pas moins que l'organisation intervient de toutes les manières possibles pour essayer de remédier à cette situation aussi dangereuse qu'inéquitable. En s'efforçant de sensibiliser le gouvernement et l'opinion mondiale à la nécessité de mettre en place un système international de prix stable et rémunérateur, en préparant des études solidement documentées sur le commerce et les prix des produits agricoles, en contribuant à l'élaboration et à la remise en vigueur des accords des produits, en apportant son concours à la CNUSET et au GATT pour tout ce qui concerne le volet agricole des négociations menées sous leur égide. Monsieur le Président, il était inévitable que les grands événements de ce monde et les tendances majeures de l'économie marquent de leur empreinte les orientations politiques sur lesquelles vous êtes appelé à vous prononcer et au premier chef le programme de travail de budget qui va déterminer les activités de l'organisation pendant les deux prochaines années et modeler leur évolution future par le biais du plan à moyen terme qui constitue son prolongement naturel. Je dirais d'emblée que le programme de travail du budget pour 94-95 est placé sous le signe de la contradiction. Contradiction entre les contraintes et les besoins, entre le nécessaire et le possible. Déjà immense, les besoins ne cessent et ne cesseront de grandir. D'abord à cause de l'expansion démographique. Même en limitant notre horizon aux 25 prochaines années, nous pouvons compter que la population du globe aura encore augmenté de 3 milliards d'êtres humains, qu'il va falloir d'abord nourrir en doublant la production alimentaire mondiale, mais aussi loger, soigner, instruire, employer. 3 milliards de personnes à qui il va falloir assurer un niveau de vie décent en veillant au respect de leur dignité et en leur donnant la possibilité de contribuer pour leur part au bien-être général. Le tout, bien entendu, sans causer à l'environnement des dégâts irréparables et en préservant la base de ressources. En effet, ce n'est pas seulement la multiplication des bouches à nourrir qui fait croître les besoins, c'est aussi la nécessité de veiller à la sécurité alimentaire et d'améliorer les niveaux de nutrition, de perfectionner les institutions et les infrastructures, de favoriser l'avènement d'un ordre économique plus équitable, de lutter contre la pauvreté des personnes et des nations, d'aider les pays en voie de développement à se libérer de la dette et à enclencher un processus de progrès, de contribuer à la réorganisation de l'économie et de l'agriculture dans les pays déstabilisés par l'effondrement du système soviétique, de protéger durablement notre milieu naturel, la terre, les eaux, les mers, l'atmosphère et la foisonnante diversité des espèces biologiques qu'elle renferme. Les priorités de l'AFO sont toujours établies en fonction des orientations que définissent nos organes délibérants, comités techniques, conférences régionales, conseils, compte tenu de ce que peuvent dicter les circonstances. Pour 94-95, le programme de travail du budget que je propose porte en outre, dans toutes ses parties, l'empreinte de la conférence de Rio, de la conférence de la nutrition, mais aussi celle d'autres réunions qui se sont tenues ou vont se tenir dans leur sillage, notamment la conférence sur la pêche responsable, organisée par le Mexique avec notre concours, ou la future conférence technique internationale pour la conservation et l'utilisation des ressources génétiques, phytogénétiques. Monsieur le Président, je crois superflu de rappeler que les problèmes de la nutrition et de l'environnement tiennent depuis longtemps une place de premier plan dans nos programmes. La mission qui nous incombe en ce qui concerne le suivi de la conférence de Rio et de la conférence de la nutrition projette un éclairage nouveau sur ces activités et met en évidence leur lien avec l'ensemble de nos travaux. Tout se tient. Les lignes d'action découlant de ces assises mondiales ont présidé au choix de nos priorités dans tous les domaines techniques et économiques. Cette approche donne encore une autre dimension aux besoins dont je parlais à l'instant. Essayez de se faire une idée des moyens qu'exige la mise en œuvre des principes et stratégies formulés par les deux conférences, c'est s'exposer au vertige. On a estimé que l'application intégrale des politiques et mesures énoncées dans l'action 21 demanderait au gouvernement quelque 120 milliards de dollars par an. Nous n'avons pas osé chiffrer ce que coûterait la mise en pratique de toutes les recommandations émanant de la Conférence internationale sur la nutrition. De tels coûts dépasseraient donc les possibilités de la communauté humaine. Le chiffre de 120 milliards de dollars est certes impressionnant, mais en réalité, il ne représente guère plus que le dixième des dépenses annuelles que le monde a consacrées aux armements pendant les années 80. Si nos sociétés ont pu supporter de tels coûts pour assurer leur défense ou leur domination en construisant des armes capables de détruire la planète Est-il concevable de penser qu'elle pourrait affecter, inconcevable, est-il inconcevable de penser qu'elle pourrait affecter une fraction de ces sommes à la cause du progrès humain indivisible ? Même si le coût financier d'entreprise ne semble pas hors de portée d'une humanité vraiment consciente des enjeux, la possibilité de répondre à tous les besoins que je viens d'évoquer demeure subordonnée à toute une série de conditions si difficiles à réunir qu'elle constitue une véritable gageure. Pour nous limiter à la production alimentaire, il s'agit de la doubler en cultivant moins de terres, sans empoisonner l'environnement et en préservant la base de ressources. Problème qui s'apparente à la quadrature du cercle. Cela exigera des technologies qui restent à inventer et dont il faudra assurer la bonne utilisation, non seulement par les grands industriels de la production agricole, mais aussi par des centaines de millions de petits paysans peu instruits. Il faut éviter de mettre en culture des terres marginales qui s'épuiseraient vite et s'accommoder de superficies réduites par le développement urbain industriel, la construction de logements, d'installations destinées aux activités sociales et des voies de communication. Il faudra encore régler les problèmes d'érosion, de salinité, de gestion de l'eau, des pertes avant et après récolte, et éviter aussi bien les mauvaises pratiques agricoles que les dérapages possibles des biotechnologies et de l'utilisation des intrants agricoles. À l'immensité des besoins répond la très grande responsabilité qui incombe à la FAO d'aider les pays en développement à se nourrir. Mais l'exercice de cette responsabilité se heurte à des contraintes tellement fortes. Comme toutes les organisations internationales, la FAO se trouve prise dans un étau budgétaire dont les mâchoires ne cessent de se resserrer depuis 1986. Le grand élan qui a conduit le gouvernement à adopter Action 21, puis la déclaration mondiale et le plan d'action de la conférence sur la nutrition, n'ont pas été jusqu'ici ce grand élan assez puissant pour les décider à ces gouvernements à dégager les crédits dont nos institutions auraient besoin pour mettre en œuvre la part des activités qui leur revient et que l'on attend d'elles. Il n'y a pas de commune mesure entre nos responsabilités et les moyens mis à notre disposition. Entre le nécessaire et le possible, l'écart se creuse. Dans ces conditions, la préparation du programme de travail et du budget devenait un exercice relevant de haute voltige. Comment concilier des exigences aussi contradictoires? Comment, sans sacrifier des activités essentielles, faire la place voulue au suivi de Rio et de la conférence de Rome dans le cadre d'un budget d'austérité et en l'absence de ressources extra-budgétaires spéciales? Pour ajouter la difficulté, les nouvelles modalités applicables aux opérations de terrain par le PNUD nous ont obligés de transférer au budget ordinaire bon nombre de postes financés jusque-là au titre des dépenses d'appui. Monsieur le Président, bien à contre-cœur, je me suis résigné à proposer un budget qui ne prévoit aucune augmentation nette par rapport à l'exercice précédent. Je dis aucune. Ce n'est pas que je me sois converti au dogme de la croissance zéro. J'estime toutefois que l'augmentation des besoins justifierait une croissance nettement positive, d'autant que nous allons avoir à servir une dizaine d'États membres en plus. Le choix que j'ai fait m'a été dicté par plusieurs considérations. Le souci de ne pas imposer une charge excessive aux pays pauvres qui ont déjà beaucoup de mal à s'acquitter de leurs contributions. Le désir de ne pas laisser à mon successeur, déjà nommé, une situation difficile en risquant de provoquer, comme cela s'est produit en 1991, un décalage entre le montant du programme approuvé et celui des crédits ouverts. Enfin, la volonté d'éviter à tout prix une bataille budgétaire qui diviserait la conférence lors d'une session si importante où il me paraît essentiel que le budget soit adopté à l'unanimité et non pas seulement par consensus. Je crois en effet nécessaire que le nouveau directeur général, que M. Diouf, puisse prendre le départ avec l'appui unanime des États membres. Monsieur le Président, si l'on songe qu'en 1975, la conférence avait adopté à l'unanimité pour l'entrée en fonction de nouveau directeur général, qui était moi-même, un budget comportant une augmentation de 50%. Est-ce trop de demander à cette conférence de l'exhorter aujourd'hui à voter unanimement un budget à croissance zéro? Malgré cette stagnation, qui équivaut en fait à un recul, nous nous sommes efforcés de préparer un programme de travail et budget répondant aux besoins les plus immédiats qu'ont fait apparaître les deux grandes conférences de 92. Dans une mesure hélas insuffisante, mais correspondant au maximum de nos possibilités, nous avons renforcé, en fonction d'Action 21, un grand nombre de programmes et sous-programmes du chapitre 2 qui définit nos activités techniques et économiques. De même, pour le suivi de la conférence internationale sur la nutrition, nous n'avons pas seulement prévu de renforcer les activités de la division nutrition, mais aussi celles d'autres unités qui s'occupent de la sécurité alimentaire, de commercialisation, etc. Pour renforcer certaines activités sans majoration globale du budget, il faut trouver l'argent ailleurs, c'est-à-dire procéder à des suppressions, à des réductions. D'aucuns estiment que l'on pourrait réduire les dépenses administratives, dégraisser les effectifs, supprimer certains de nos programmes qu'ils jugent trop nombreux. J'inviterai volontiers ces critiques à regarder la réalité de plus près. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Excellences, Monsieur le Ministre, les ambassadeurs, depuis mon entrée en fonction, nous n'avons cessé de comprimer les dépenses d'administration de soutien, au point que nombre d'États membres estiment que nous allions trop loin dans cette direction, nous ont mis en garde à plusieurs reprises. Je suis fier d'avoir économisé sur nos frais de gestion de grosses sommes que nous avons pu affecter à des activités de fonds. Mais la rançon de cette politique est qu'il n'est plus possible de transférer au programme technique des ressources prélevées sur le secteur administratif ou de soutien. De fait, rien que pour conserver le même niveau d'efficacité, nous allons devoir majorer quelque peu les crédits alloués à certains de ces secteurs. Quand j'entends parler de dégraissage de nos effectifs, je me demande où l'on pourrait y trouver de la graisse. Les dépenses du personnel absorbaient plus de trois quarts du budget en 1974-75. Elles représentent aujourd'hui à peine plus de la moitié. Malgré la croissance d'activité et la création du bureau dans le pays, il y a aujourd'hui, Monsieur le Président, écoutez-moi bien, il y a aujourd'hui moins de postes du cadre organique qu'en 1975. De plus, beaucoup de ces postes sont restés vacants pendant des années, faute de ressources pour les pourvoir ou de candidats valables qui soient prêts à accepter les conditions que nous pouvions offrir. Nos programmes sont-ils trop nombreux? Je voudrais qu'on m'en cite un seul qui soit inutile, passé au crible par les comités techniques, les comités de programme, le comité financier, le conseil et la conférence elle-même. Ils ont été approuvés dans leur totalité. Dans mes propositions pour 94-95, je n'avais pas moins envisagé, pas moins des coupes dans certains programmes, forêt, pêche, programme de coopération technique. Cette idée souleva un tel tollé que nous avons dû non seulement rétablir les montants intérieurs, mais même proposer des augmentations nettes pour ces activités, forêt, pêche, programme de coopération technique. Où avons-nous trouvé l'argent? Nous avons bien à contre-cœur diminué les montants affectés à d'autres programmes techniques et économiques, notamment en tirant tout le parti possible des économies de personnel que permet l'informatisation. Nous avons réduit les crédits destinés aux représentants de l'AFAO et aux bureaux régionaux. Mais surtout, en raison des changements intervenus dans les modalités de notre coopération avec les institutions financières, notamment la Banque mondiale, nous avons proposé réduction sensible des crédits affectés aux activités liées à l'investissement et aux programmes de soutien à l'investissement. je passe outre mes remarques sur nos négociations en ce moment avec la Banque mondiale, puisqu'elles vont continuer. Je regrette de n'avoir pu inscrire au budget des crédits plus importants pour la formation du personnel. Alors que l'évolution accélérée des sciences et techniques justifierait l'envoi de nombreux fonctionnaires à des stages de formation de recyclage. Si l'ensemble que certaines entreprises n'hésitent pas à consacrer à cet objet des crédits pouvant atteindre 5% de leur budget total, les montants que nous pouvons lui affecter apparaissent dérisoires. Quoi qu'il en soit, mes propositions sur le programme de travail du budget ont reçu l'approbation du comité du programme, du comité financier et du conseil, même si la question de leur financement n'est pas réglée totalement. Le programme de travail du budget va encore une fois être examiné par la commission 2, avant de vous être présenté pour une adoption définitive. Monsieur le Président, je le recommande chaleureusement à votre approbation, car je le crois nécessaire, intimement lié à la mise en œuvre des stratégies définies par la conférence de Rio et la conférence internationale sur la nutrition, est donc partie intégrante d'un effort indispensable à la survie de l'humanité. Tout y est utile, il ne laisse place à aucun gaspillage. Vous qui m'avez fait tant de fois manifesté votre confiance, je vous demande une dernière fois de me la donner en approuvant à l'unanimité les propositions qui vous sont soumises et dont dépend l'avenir de la FAO. Je peux vous dire que ce programme de travail de budget va vous coûter beaucoup moins que le programme de travail de budget de 1992-93. Les contributions en dollars seront inférieures. Je crois que c'est un peu presque unique d'abord dans les annales de la FAO. Et peut-être, si nous regardons les contributions que vous devez faire au budget d'organisations spécialisées du même niveau que la FAO, je pense à l'Office mondial de la santé et au Bureau international du travail, dont les budgets biannuels ont été déjà approuvés par ces mêmes États membres, votre contribution pour 94-95, soit au budget de l'OMS, soit au budget du Bureau international du travail, va être supérieur de plus de 10% à ce qu'il était pour 91-92-93. Donc ici, vous avez 10% au moins. Comme on dit, the best program can money buy. Du reste, le programme de travail de budget ne constitue pas un cadre rigide. Il se prête aux accommodations que peuvent nécessiter l'apparition de problèmes imprévus ou les besoins des États membres. Mon successeur ne va pas se trouver ligoté dans une camisole de force. Il disposera d'une marge de manœuvre suffisante pour diriger une institution qui, dans le système des Nations Unies, se place au premier rang, non seulement parce que la nourriture est le premier des besoins de l'être humain, mais aussi parce que la nutrition et l'environnement concerne tous les habitants de la Terre et que 80% d'entre eux, qui peuplent le tiers-monde, ont un intérêt vital à l'action que nous menons en matière de production et de commerce agricole, de sécurité alimentaire et de développement rural. Monsieur le Président, pour assurer l'exécution de ce programme, j'ai conscience de laisser à mon successeur une équipe de haute valeur, parfaitement rodée et possédant toutes les qualités voulues en matière de programmation et d'administration aussi bien que d'analyse technique. Elle a fait de grandes choses, elle en fera encore. Rien ne peut mieux illustrer la façon dont elle sera répondre aux sollicitations les plus urgentes et les plus imprévues que les succès remportés contre la Lucilie Boucher ou la récente invasion du criquet pèlerin. Nous avons tout tué, les Lucilie Boucher, les criquets pèlerins, nous avons été très efficaces dans ce domaine. Rien n'atteste mieux sa compétence que les travaux sur l'agriculture et le développement durable qui ont trouvé leur expression dans les conférences de Den Bosch et de Rio de Janeiro, ou encore la contribution décisive qu'elle a fournie à la conférence internationale sur la nutrition. Monsieur le Président, au moment de quitter mes fonctions, je suis heureux et fier que cette équipe dispose désormais des locaux et de moyens de travail à la hauteur de sa mission, tout en demeurant au cœur d'un site urbain qui est sans doute le plus beau du monde. La voici réunie dans un même ensemble d'édifices auquel va pouvoir s'ajouter un bâtiment supplémentaire, ce qui devrait amplement couvrir nos besoins pour les 20 ou 25 prochaines années. Nous devons ces installations à la générosité de notre pays hôte et le président de la République italienne nous a fait l'honneur de venir les inaugurer. Je suis sûr que la conférence tiendra à lui exprimer, comme vous l'avez indiqué, la profonde gratitude de l'organisation. De même, nous disposons maintenant d'un équipement efficace qui représente le dernier cri de la bureautique et de l'informatique. Un système de communication sophistiqué permet à chaque agent d'être lié à tous par téléphone et par courrier électronique. Des dizaines de banques de données peuvent fournir à chacun, d'une façon quasi instantanée, des renseignements dont la recherche absorbait auparavant un temps lent et précieux. Là encore, je veux remercier le gouvernement italien de son importante contribution à l'acquisition et la mise en place du matériel. Le développement des réseaux opérationnels doit beaucoup au travail acharné de mon regretté collègue et ami Milan Truculia, directeur de la division statistique, qui s'y est consacré jusqu'à son décès prématuré. Permettez-moi de saluer ici la mémoire de ce grand serviteur de la communauté internationale qui avait assuré pendant 8 ans la présidence du comité de programme avant d'entrer au secrétariat. Monsieur le Président, voici donc notre FAO matériellement et moralement préparé à affronter les défis du 21e siècle. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui et aussi tout ce que j'ai cherché à faire au long de ces 18 années atteste la conscience aiguë que j'ai de l'ampleur de ces enjeux et de l'importance capitale pour le développement harmonieux et même pour la survie de l'espèce humaine. Dans cette perspective, les travaux de la session qui commence me semblent revêtir, s'il se pouvait, plus de valeur encore qu'à l'accoutumée. Je souhaite de tout cœur que sous la conduite éclairée de votre président, ce sommet de l'agriculture mondiale se déroule dans un climat de dialogue, de compréhension réciproque et de concertation confiante qui lui permettra de porter les fruits qu'on attend les ruraux du monde entier, mais aussi tous les habitants de notre vieille et toujours jeune planète. Je vous remercie.